France Culture.
Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Né en 1897, Jean Cassou était une personnalité du paysage littéraire et artistique français. Poète, critique d'art, historien, romancier, il fut aussi en 1936 membre du cabinet de Jean Zay, alors ministre de l'Éducation nationale du Front populaire, puis conservateur du Musée national d'art moderne de Paris. Résistant, il fut arrêté et enfermé dans la prison de Toulouse, où il écrivit ses 33 sonnets composés au secret, publiés dans la clandestinité sous le pseudonyme de Jean Noir et préfacés par Aragon. En 1985, il accordait à l'écrivain Jacques Binse une série de 5 entretiens pour France Culture. Dans le premier d'entre eux, il racontait son enfance en Picardie, puis son arrivée à Paris, peu avant la Première Guerre mondiale, et décrivait surtout l'extraordinaire effervescence intellectuelle qui caractérisa la période de l'entre-deux-guerres ensuite. À chaque seconde, il y avait quelque chose de neuf, disait-il joliment, pour en donner une idée. Jean Cassou ou la vocation d'écrire, premier volet d'une série de 5 émissions, diffusée pour la première fois sur France Culture le 27 octobre 1985.
La vocation d'écrire, entretien avec Jean Cassou, par Jacques Binse, réalisation Odile de Pontual, collaboration technique Agnès Boissonnade et Jean Daniel. Jean Cassou, vous êtes né en Espagne, mais vous n'y avez pas vécu longtemps.
Non, j'y ai vécu 4 mois. Enfin, mon père qui était béarnais, comme son nom l'indique, Cassou. Cassou est un nom béarnais très répandu dans le Béarn, dans la région de Pau, qui signifie chêne. C'est comme si je m'appelais Duchêne. Et vous savez que beaucoup de béarnais et de basques, par une espèce de tradition, émigraient beaucoup au Mexique. Et alors, mon père était né au Mexique, d'un père, justement, béarnais, installé au Mexique, et qui avait épousé là-bas une Mexicaine. C'est pas ma grand-mère était Mexicaine. Et puis, mon père est venu achever ses études en France, dans son pays, et a passé à la faculté de Bordeaux son bachot, et puis est entré à l'école centrale, où il est devenu ingénieur. Et alors, en tant qu'ingénieur, il a commencé sa carrière d'abord au Creusot et ensuite dans un port industriel du pays basque, à Deusto, près de Bilbao. Et il a épousé là une Espagnole, ma mère, et je suis né là. Et il travaillait là à l'arsenal de Bilbao. Et puis alors, un de ses camarades de l'école centrale, qui avait trouvé une situation dans le nord de la France, près de Saint-Quentin, pays essentiellement industriel, lui a écrit pour dire « Mais ici, j'ai quelque chose dans l'usine où je travaille, où je suis directeur, ingénieur-directeur, il y a un autre poste d'ingénieur qui est tout à fait fait pour toi, viens. » Alors, d'Espagne, mon père et ma mère et moi, leur bébé de 4 ans, nous sommes partis pour...
4 mois.
De 4 mois, qu'est-ce que je raconte? De 4 mois, nous sommes partis pour Saint-Quentin, région industrielle avec des canaux, et où j'ai passé mon enfance au lycée de Saint-Quentin, et tout ça. Alors là-bas, très bien marché pour nous. Ah, notre situation était agréable. Donc je suis né là d'une famille, et j'ai passé ma première enfance dans une famille bourgeoise qui menait une vie très, très tranquille et très ordinaire. Et puis alors, les affaires de mon père ont mal marché. Il est tombé malade, et il est mort. Et je suis resté seul à 16 ans, entre 16 et 17 ans, avec à ma charge ma mère et ma sœur, âgée de 4 ans de moins que moi. Alors là, ça posait toutes sortes de problèmes, et j'étais extrêmement malheureux, et j'ai connu quelque chose de pire que la misère, et qui s'appelle la pauvreté. Et c'est à ce moment-là que la guerre a éclaté. La guerre de 14 a éclaté. Alors, je n'ai pas été mobilisé tout de suite, j'ai passé des conseils de révision, ma santé n'était pas... Enfin, j'étais pas très, très fort physiquement. C'est-à-dire, enfin, en fait, je n'ai pas fait la guerre de 14. Et en fait, aussi, je dois dire que dans ma conscience, elle a, si curieux que ça paraisse, n'est-ce pas, elle a tenu moins de place que mes préoccupations personnelles, n'est-ce pas, causées par ma situation sociale, qui était extraordinairement difficile et presque désespérée, parce que j'étais extrêmement jeune. Et alors, j'ai vécu ces années-là en usant d'expédients, en faisant un peu de littérature, parce que c'est ça avant tout qui me préoccupait, et en lisant énormément, et en écoutant ma vocation, dont je vous parlerai, et puis en laissant venir les choses.
Et jusqu'à quand est-ce que vous avez habité Saint-Quentin ?
Jusqu'à l'âge de... jusqu'à l'âge de 12 ans. Et alors après ça, ça a été l'avenue à Paris, la ruine de mon père... Ça. Et ces années de Paris où j'ai fait au lycée ma troisième, ma seconde, ma première.
Ça. Puis, il y avait déjà un déracinement là.
Il y avait déjà un déracinement à Paris. Un déracinement de province à Paris. Paris, avec tout ce que pouvait représenter Paris pour une toute jeune conscience de ce moment-là. Et alors, ceci explique que la guerre de 14. Mais moins engagé, moins frappé que ma situation personnelle qui me causait beaucoup de soucis et dont je ne pouvais parler à personne, soit dont je ne parlais pas à mes camarades de ce temps-là. J'étais très tourné sur moi-même et vers moi-même. La guerre de 14-18, qui était un événement énorme de l'histoire du monde et en particulier de l'histoire de mon pays, ne m'a pas impressionné aussi vivement qu'elle impressionnait la généralité de mes contemporains, parce que j'ai pris conscience à ce moment-là d'une circonstance et d'une condition spéciale qui me touchait, moi personnellement, jeune homme qui, au moment où il commence justement à entrer dans la vie, est frappé par un malheur affreux, une très grave maladie de mon père, alors les besognes, les expédients, toutes sortes de préoccupations et de soucis qui, dans une époque où, alors, où la société était complètement bouleversée par la guerre, me mettaient dans des affres et dans des complications beaucoup plus grandes que celles que je pouvais imaginer. Et il s'est trouvé que, alors, à la fin de la guerre, dans les années 20, tout de suite après la guerre, le monde s'est présenté sous un tout autre aspect qui répondait d'une façon beaucoup plus vive à mes préoccupations à moi et à mes besoins spirituels, intellectuels, mes besoins d'action, n'est-ce pas, que ne l'avait été l'époque précédente.
Partie de ces gens qui sont arrivés à l'âge adulte, au moins civilement, c'est-à-dire à 20-21 ans, juste au moment où la guerre de 14 se finissait, c'est-à-dire, je crois, où on peut dire, les historiens le disent, où le XXe siècle est arrivé lui aussi à l'âge adulte. Il y a donc là une concordance tout à fait
exactement,
curieuse.
Exactement. Alors là, je me suis senti mon contemporain. Je me suis senti le contemporain de l'événement, de ce qui se passait. J'ai pu réfléchir d'une façon plus complète encore sur ma relation aux autres, sur ma relation à la chose extérieure, à l'événement et à la société. À la société, à ce moment-là, et en très grande transformation. De sorte que ce qu'on appelait l'entre-deux-guerres s'est présenté pour moi d'une façon extrêmement prégnante, extrêmement impressionnante. Mais je me suis tout de suite senti engagé, alors, dans mon époque, comme je ne l'avais pas été précédemment. Parce qu'en effet, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Eh bien, il y a eu une espèce de réveil intellectuel prodigieux, en France, mais aussi à l'étranger. La France étant en grande partie à l'origine de toutes ces transformations qui se produisaient également à l'étranger. Il y a eu à ce moment-là l'école de Paris, justement, où des artistes venus de tous les pays du monde, aussi bien de l'Amérique que de l'extrême Orient, que de l'Asie, que de l'Afrique, que de toutes sortes d'endroits aussi lointains que des ghettos juifs de Pologne, d'Allemagne, de Russie, de Hongrie, etc., sont arrivés à Paris parce qu'ils ont senti la nécessité de donner suite à la grande révolution plastique qui s'était produite avant la guerre, qui avait commencé à se produire avant la guerre, avec Montparnasse et Montmartre, avec la Rotonde, avec l'école de Paris, avec les ballets russes, avec toutes sortes d'événements comme ça, de caractère international. Et c'est au milieu de ces événements de caractère international, la France apparaissait comme meneuse du jeu, comme maîtresse à penser et à créer.
C'est en tout cas le carrefour.
C'est le carrefour.
Les gens se retrouvaient.
Et alors on se retrouve, la guerre est finie, il n'y aura plus de guerre, c'est la guerre des guerres. C'est fini, il y a la société des nations, il y a toutes sortes de choses. Il y a une nouvelle Europe qui est apparue, des empires qui ont disparu. L'empire allemand, l'empire autrichien. Il y a eu la révolution russe. Et il y a des pays nouveaux, la Pologne, la Hongrie, la Tchécoslovaquie. Dans les Balkans, il y a également d'immenses transformations, de sorte qu'on a affaire à un monde nouveau. Et alors, à Paris, qui est le grand témoin et l'un des facteurs les plus importants des transformations qui vont avoir lieu sur le plan intellectuel, sur le plan de la création, scientifique, philosophique, etc., eh bien, on sent cette nouveauté avec plus d'acuité que partout ailleurs et plus de responsabilité. Il y a une espèce d'enthousiasme et de frénésie qui s'empare des esprits et qui les entraîne vers une curiosité énorme de la création, de ce qui va se passer et de l'invention. Et puis alors, il y a eu une renaissance de la littérature et du plaisir de la littérature, du plaisir d'écrire, de lire des livres. Il y a eu un foisonnement d'éditions, de collections, de bibliophilie. Il y a eu un tas de choses à ce moment-là qui accompagnaient alors une révolution artistique, esthétique, picturale, et des plus extraordinaires que nous ayons jamais connues avec l'impressionnisme. Et à la suite de l'impressionnisme, c'était le cubisme, le futurisme, le surréalisme, etc. Toutes sortes de révolutions plastiques extraordinaires et très étonnantes et qui faisaient scandale, mais en même temps attirer la mode, attirer le snobisme, attirer le monde. La réconciliation de la rive droite et de la rive gauche, sous l'égide d'un manager d'esprit extraordinairement ingénieux et entreprenant qui était Cocteau. Alors, tout ceci était nouveau à chaque seconde de l'existence. À chaque seconde de l'existence, il y avait quelque chose de neuf et de plus extraordinaire que ce qu'il y avait eu avant. Et les ballets russes, et la montée, alors à ce moment-là, l'art scandaleux, qui avait paru scandaleux, devenait l'art prestigieux, devenait un art de milliardaire. Les peintres qui avaient connu la bohème de Montmartre et de Montparnasse et de Vaugirard devenaient des grandes puissances, des grandes puissances mondaines et des grandes puissances internationales.
Thank you. compte, à ce moment-là, que la vie intellectuelle est surtout faite d'invention et de création, et le besoin de créer, d'inventer, de faire du nouveau, s'impose à tous les esprits de ma génération, mais avec une force prodigieuse. Et ce besoin de nouveauté, ce caractère révolutionnaire, eh bien, tout le monde sent à ce moment-là, enfin ceux qui sentent ça de la façon la plus active, parce qu'ils vont être les agents principaux et les principaux moteurs de ces transformations-là, se rendent compte que là, nous avons, nous, à cause de notre situation parisienne, à cause du rôle de la France dans le monde qui s'est développé jusqu'à ce moment-là, à travers toutes sortes d'accidents et toutes sortes de catastrophes et toutes sortes d'événements, eh bien, que la France joue un rôle de premier ordre. Et en effet, elle joue un rôle de premier ordre. C'est elle qui est à la tête de cette énorme révolution spirituelle, qui est une des plus énormes de toute l'histoire de la pensée et de la création humaine. Et cela se produit dans toutes sortes de domaines, les domaines de la création artistique, tu vois, aussi bien musique que poésie, que littérature, que roman. Et dans le monde de la pensée, dans le monde de la philosophie, là, il y a un philosophe qui domine le monde à ce moment-là, c'est Bergson. Dans le monde de la vie sociale et du comportement quotidien de chacun et des groupes dont chacun fait partie. La société se transforme, la société a changé, les conséquences financières et économiques des événements apparaissent sous un jour tout à fait nouveau. Et puis alors, des inquiétudes politiques et sociales se développent de plus en plus, l'idée de la révolution. Parce que tout ceci est un climat, une atmosphère révolutionnaire. Eh bien, il faut donner aux mots toute leur ampleur et en même temps toute l'ampleur de leurs diverses significations. Le mot révolution peut s'appliquer à des nouveautés artistiques, créatrices. Il s'applique aussi à des transformations sociales. Et la révolution russe, évidemment, a produit une influence énorme à ce moment-là dans le monde. La question du rapport entre le capital et le travail se pose de la façon la plus aiguë. Enfin, il y a une philosophie, une pensée et qui apparaît comme directrice de toutes les choses et comme, en tout cas, explicatrice de ce qui se passe, interprète de ce qui se passe, c'est le marxisme. Enfin, tout le monde est marxiste, comme tout le monde, à partir d'un certain moment, était cartésien. Il est resté. Et le marxisme est évidemment une philosophie qui a séduit à ce moment-là tous les esprits qui ont voulu savoir de quoi il s'agissait, ce que c'était. Et moi, comme tout le monde, eh bien, j'ai lu du Marx. Enfin, je ne peux pas dire que j'ai lu Marx, parce que ça, c'est trop demandé, mais j'ai lu du Marx. Et je voudrais que tout le monde le lisait. Enfin, tout le monde disait Marx, Gide disait, oh, avec son accent, on ne peut pas savoir les difficultés que j'ai à lire Marx. Je le lis, je m'oblige à le lire, mais j'y comprends rien. Mais il sentait que là était une pensée qui expliquait des choses, et en tout cas qui aidait à comprendre des choses. On pouvait ne pas souscrire à toutes les données des dogmes que l'on pouvait fabriquer avec le marxisme. Enfin, il fallait se rendre compte de l'existence du marxisme et de son importance en tant que méthode, en tant que façon de penser et en tant que spéculation, invitant les esprits à spéculer à leur tour, à réfléchir, à observer, à prendre conscience de leur situation et envisager une interprétation empirique des transformations qui se produisaient à ce moment-là dans le monde. Eh bien ça a été ressenti par la plupart des esprits de ma génération, de mon groupe, et surtout cet empirisme de la pensée à quoi nous étions invités. Penser, c'est en même temps faire une expérience, c'est en même temps vivre la pensée. C'est vivre la pensée, ces transformations sociales, chaque individu les a vécues et les a non seulement étudiées, examinées, analysées, mais vécues. Il s'agissait d'une façon de vivre beaucoup plus que d'une philosophie avec ses systèmes, avec ses lois, avec ses règles, avec ses découvertes, avec toutes ces tous ses modes de connaissance et toute sa méthode. Le marxisme, c'était cela, évidemment, mais c'était aussi, surtout, une façon de se comporter et d'envisager le rapport de l'individu à la société et au monde en voie de transformation, et d'énormes transformations.
C'était Jean Cassou ou la vocation d'écrire, premier volet d'une série de 5 entretiens menés par Jacques Binns, diffusée pour la première fois sur France Culture le 27 octobre 1985. À suivre.